Frères et sœurs bien-aimés, à travers les paraboles qui habitent nos liturgies dominicales ces temps-ci, le Seigneur nous entretient de ce que l'on appelle le royaume des cieux, peut-être plus communément le paradis ou même le ciel. Pourtant, il ne faut pas seulement imaginer par le mot « royaume des cieux » ce lieu spirituel où nous sommes attendus pour contempler Dieu lui-même. Dans la tradition biblique, dans l'Ancien Testament en particulier, il ne faut pas prononcer en vain le nom de Dieu et on s'interdit par respect de prononcer le nom même de Dieu, de telle sorte que beaucoup d'expressions permettent de comprendre qu'il s'agit de Dieu par des images. Ainsi en est-il du royaume de Dieu. Il désigne Dieu lui-même, le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui veulent rassembler tous ceux qui sont habités par la grâce du baptême. De même en est-il du règne de Dieu. Que votre règne vienne. Le règne de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Le règne de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit avec puissance en sa création. De telle sorte que les paraboles que nous méditons ce dimanche doivent s'entendre du mystère de Dieu. La présence de Dieu dans la bonne terre de notre âme, où le Seigneur a planté la graine de la foi, de l'espérance et de la charité, arrosée par la grâce, notamment du baptême, doit porter du fruit. Ces trois vertus théologales, eh bien voilà, qu'elles doivent également un jour cesser, du moins deux d'entre elles. Si le Seigneur a semé en nous la graine de la foi, au ciel, il ne sera plus question de foi. La foi fera place à la claire vision, nous verrons Dieu. De même, au ciel, il n'y aura plus d'espérance, parce que cette vertu est semée en notre âme pour que nous tenions ici-bas fermement la vie chrétienne, le combat de la foi. En revanche, au ciel, s'il n'y aura plus d'espérance, c'est parce qu'il n'y aura plus rien à espérer, l'espérance fera place à la présence de Dieu, que nous contemplerons dans un bonheur sans fin pour l'éternité. Si la foi et l'espérance, ces deux vertus théologales, cesseront au ciel, il n'en est pas de même avec ce que saint Paul appelle la plus grande des trois, la vertu de charité. Dieu a semé en notre âme cet amour qu'il nous porte et dont il attend en retour l'amour sincère et libre de nos âmes. Oui, nous devons aimer Dieu ici-bas et manifester cet amour de Dieu par l'amour que nous avons pour le prochain. Et le prochain est celui qui est géographiquement proche de nous. Nous n'avons pas à chercher le prochain sur d'autres continents. Nous n'avons pas à chercher le prochain à travers des écrans en d'autres lieux. Le prochain est celui que je peux voir et apercevoir. C'est mon voisin, ma voisine. Pour l'époux, c'est l'épouse. Pour les parents, ce sont les enfants et vice-versa. Nous avons à manifester l'amour que nous portons à Dieu par cet amour quotidien que nous devons avoir à l'endroit du prochain. Cette graine de la charité a été plantée en notre âme et le bon Dieu attend justement que notre cœur s'ouvre à la démesure de son amour et de sa miséricorde. Ainsi, ce royaume des cieux, qui est comparable à un trésor caché dans un champ, c'est bien la présence de Dieu cachée au cœur du monde. Et le regard de la foi et l'espérance qui brûlent en notre âme sont là pour nous faire reconnaître dans les pauvretés du quotidien la pauvreté du Christ qui s'incarne. Ou encore dans les blessures et les souffrances, le regard de la foi nous permet d'y reconnaître le Seigneur crucifié. Voilà pourquoi ce trésor caché dans un champ doit être découvert, et saint Paul nous le dit, rien de ce qui n'est caché pour l'heure ne sera un jour dévoilé. Voilà le bonheur sans fin que nous contemplerons. Voilà le véritable trésor de la vie chrétienne et de notre âme. Ce n'est pas nous qui avons d'abord aimé Dieu, c'est lui le premier qui nous a aimés et qui a ensuite manifesté de quel amour il nous aimait en offrant sa vie sur le bois de la croix. Voilà le trésor caché, le trésor précieux. Ceux qui n'ont pas la foi peuvent rester à regarder un cadavre mis en croix. Nous ne contemplons ni la souffrance, mais nous voyons de quel amour nous avons été aimés, par quel amour nous avons été rachetés. Nous avons été, nous dit saint Paul, justifiés par celui qui est le seul juste, notre Seigneur Jésus le Christ. Alors voilà pourquoi, lorsque l'on a trouvé ce trésor caché, eh bien on va vendre tout ce que l'on possède pour s'en saisir. Ne rien préférer à Dieu. C'est ainsi que commencent également les commandements, nous invitant d'abord à aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme. Et tout le reste nous sera alors donné de surcroît. Voilà l'acte de foi et l'espérance qui fondent l'amour qui nous saisit et cet amour qui nous fait vivre. De même, voilà que le Seigneur nous parle de sa présence en nous disant que sa présence, elle est comme une perle fine, une petite perle délicate. Et voilà que celui qui est le négociant et qui nous figure chacun, parce que nous sommes des chercheurs de Dieu, lorsque nous avons trouvé cette perle rare, eh bien voilà que de même, nous vendons tout ce qui a de la valeur pour nous, pour ne conserver que ce qui aura de la valeur, non plus seulement en ce monde éphémère, mais pour la vie éternelle. Et comme en chacune des paraboles que nous méditons en ces temps d'été, voilà que le Seigneur, après nous avoir entretenus de deux paraboles, nous parle de la fin des temps. Dimanche dernier, c'était le bon grain est livré. Et voilà que ce dimanche, le Seigneur nous parle de la moisson abondante, dira-t-il en notre parabole, cette fois-ci en disant que le royaume des cieux est comparable à ce filet que l'on jette dans la mer. Et nous nous souvenons que l'apôtre Pierre, pêcheur de Galilée, avec son frère André ou encore Jacques et Jean dans leur barque, ont été appelés, mais non plus à être des pêcheurs de poissons, mais à la suite du Christ, à devenir des pêcheurs d'hommes. Eh bien voilà, les filets que l'Église remonte à la fin des temps et dans lesquels se trouvent, non plus du bon grain et de l'ivraie, mais il se trouve, eh bien, toutes sortes de poissons. Il y aura ce qui est bon d'un côté, ce qui est mauvais de l'autre, et ce qui est mauvais sera envoyé dans la fournaise. Le Seigneur nous parle toujours de ce jugement dernier comme d'un tri que le Seigneur va opérer. Sur quel critère ? Sur le critère de l'amour que nous aurons eu les uns pour les autres, sur le critère essentiel, celui de l'amour de Dieu, qui nous permet eh bien, de dépasser nos faiblesses, parce que lorsque dans la prière on s'ouvre à la présence de Dieu, voilà que notre vie change, parce que la bonne terre de notre âme est alors habitée par le Verbe de Dieu qui y fait sa demeure et qui fait alors en nous des merveilles. C'est bien ce que la bienheureuse Vierge Marie est venue rappeler à travers le mystère du temps, particulièrement à cette terre de Bigorre. Elle est venue notamment à la grotte de Lourdes pour nous rappeler eh bien, que nous devons nous convertir, c'est-à-dire que notre cœur doit changer pour aller lui préférer la source. Aller à la source, nous dit-elle, boire et vous laver, la source est l'image du cœur du Christ, duquel il en est sorti, et du sang et de l'eau, son sang nous a rachetés et cette eau qui jaillit de son cœur nous a lavés de nos fautes. La Vierge nous invite donc à la prière qui unit notre âme à Dieu pour que nous puissions comprendre dans cette prière combien cette prière nous découvre le trésor caché de la présence de Dieu en notre âme, de même que cette prière est alors une pierre, une perle précieuse et fine, parce qu'elle est la présence même de Dieu qui est si proche de nous. C'est une des interrogations de saint Augustin dans les Confessions. Après sa conversion, une fois qu'il a découvert le Dieu d'amour et de vérité, saint Augustin s'interroge « Mais où étiez-vous, Seigneur, quand je vous ai recherché ?» Je vous ai cherché dans les très belles jeunes filles que Augustin a aimé collectionner, mais je ne vous y ai pas trouvé. Je vous ai aimé dans l'amour des belles lettres. C'était un grand orateur, un grand rhéteur, mais je ne vous y ai pas trouvé. Et Augustin de se rendre compte que ce qu'il cherchait à l'extérieur de lui-même était ce trésor caché, cette perle fine enfouie au plus profond de lui-même. Et Augustin de reconnaître, vous étiez au plus profond de moi, mais c'est moi qui n'étais pas ajusté pour vous y découvrir. Et voilà cette beauté si ancienne et si nouvelle qui a fait vivre le grand docteur d'Hippone. C'est ce même amour qui doit nous saisir aujourd'hui. Enfin, la dernière parabole s'adresse spécifiquement aux scribes, aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, à ceux qui sont habités par les promesses de l'ancienne alliance et qui ont une mission de la part de Dieu, celle de reconnaître le Messie envoyé par Dieu en raison des innombrables signes contenus dans un cahier des charges précis que le Messie va devoir remplir. Rendre la vue aux aveugles, l'audition aux sourds, la mobilité aux paralysés, nourrir le peuple, et nous assistons à des multiplications de pains, chasser le démon, annoncer la bonne nouvelle d'une terre promise dont les portes sont enfin ouvertes par le sacrifice de la croix. Voilà pourquoi le Seigneur met en garde les scribes qui doivent devenir des disciples du royaume des cieux. Ils ne doivent pas rester seulement tournés vers les prophéties de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi le Seigneur leur dit que dans ce trésor, il y a de l'ancien, bien sûr, mais il y a également la nouveauté de la présence de notre Seigneur Jésus le Christ, une nouveauté qui leur fera grincer des dents, qui feront qu'ils chercheront à se débarrasser du Seigneur Jésus. Le Seigneur nous dit que dans le trésor de notre âme, dans cette présence de Dieu, il y a du neuf et il y a de l'ancien. L'Église, dans sa foi, vit de la tradition de l'Église qui repose sur les apôtres. Nous avons fêté Saint-Jacques cette semaine, alors qu'à la fin du mois de juin, nous avons fêté les grands héros de la foi, Saint-Pierre et Saint-Paul. Ils ont su, eux aussi, lancer les filets pour venir attirer les hommes vers le Christ, et nous avons chacun répondu à cet appel. De même, nous avons à aller contempler le trésor de notre âme, cette présence de Dieu qui fera avec nous du neuf et de l'ancien. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, la mère du bel amour, nous prendre par la main, nous aider à avoir la foi chaque jour, à avoir l'espérance ancrée en notre âme et à vivre de charité. Ainsi soit-il.